en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président de l'Institut de France, Monsieur le Président de l'Académie, Madame la Secrétaire Perpétuelle de l'Académie française, Messieurs les Secrétaires Perpétuels, Monsieur le Président de la Commission administrative centrale, mes chers confrères, donc à l'invitation du Président de l'Académie, dont je le remercie pour cette invitation, je vais essayer de poser la problématique de l'institution des sciences morales et politiques, en m'inspirant bien entendu des travaux de nos prédécesseurs, que vous connaissez sans doute, notamment Jules Simon, le baron Sellière, Bernard Chenot, Henri Amouroux, pour ne citer que ceux qui ne sont plus là, en intégrant les apports récents des chercheurs et en essayant évidemment de raccorder notre chronologie au mouvement général des idées et de l'histoire. Et nous rencontrerons ainsi quelques-unes des constantes de notre institution académique. Tout d'abord, les sciences sociales et les sciences morales et politiques seront sans cesse obligées de démontrer et de justifier leur légitimité et leur valeur contre d'autres domaines de la pensée jugés plus sûrs ou plus utiles. D'autre part, elles reposent sur un postulat délibérément optimiste, se fondant sur quelques croyances, l'enrichissement de l'esprit humain, la découverte de la vérité morale, la reconnaissance du caractère universel et permanent de quelques valeurs qui touchent à la personne humaine, l'affirmation que, quels que soient ses succès depuis 3 siècles, la rigueur scientifique ne s'impose pas à l'ensemble de l'univers de la pensée et que la science ne peut se voir réserver seule la mission de sauver la civilisation. Tout progrès dans ce domaine supposant une solidarité et un dialogue entre l'intellectuel et le scientifique. C'est entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle que l'on a commencé à introduire dans les réflexions sur l'histoire et surtout le temps présent un troisième acteur, non plus seulement l'Église et le monarque, mais la société comme acteur distinct, efficace, observable, et dont il était peut-être possible de découvrir les lois propres. Après des décennies de réflexion, auxquelles ont contribué Montesquieu, Rousseau, mais aussi Hobbes, Locke, Hume, apparut naturellement, porté par le progrès et la confiance dont bénéficiaient les sciences, la notion nouvelle de science sociale au pluriel. Ce n'est que postérieurement, au XIXe siècle, au temps des synthèses, que l'on a parlé de sciences humaines ou de sciences de l'homme. Mais entre-temps, l'usage privilégia l'appellation jugée plus précise et plus ambitieuse de sciences morales et politiques. Contrairement à certains chercheurs, je ne voudrais pas m'attarder aux dénominations qui se sont multipliées au XVIIIe siècle. Sieyès invente le mot de sociologie en 1780, 50 ans avant Auguste Comte. Mais il hésite entre ce mot et sociologie, socionomie et sociocratie. On parle au XVIIIe siècle de sciences sociales ou d'art social, avec plus d'ambition de mathématiques sociales. Le terme de sciences morales et politiques apparaît sous la plume de Quesnay en 1769 et s'installe dans les 2 décennies qui suivent. Plus intéressant me paraît de retracer les mouvements qui ont conduit à l'édification de ces sciences. L'encyclopédie, en 1750, a ouvert la voie à une démarche pragmatique et rationnelle de construction du savoir. Mais les Lumières, issues de cette publication, forment un mouvement, une philosophie, un groupe de philosophes qui débordent largement cette approche et introduisent le doute rationnel, la remise en cause et la recherche de progrès dans toute réflexion sur la société. S'inscrivant dans ce mouvement, les physiocrates, avec Baudot et Quesnay, tentent, à partir d'un tableau économique et du débat sur l'origine des richesses, d'édifier une science des mouvements économiques, sous une prolifération d'appellations déjà, qui petit à petit se resserre sur le terme d'économie politique. s'élevant au domaine de la philosophie, Condillac élargit la démarche et dégage les thèmes et les notions sur lesquels vont pouvoir s'édifier des sciences morales et politiques. L'ébranlement n'est encore qu'apparent, mais il est profond. Il n'est pas étonnant que surgissent dans la société des préfigurations sous forme de sociétés de pensée et de clubs. Il y eut vers 1720 un club de l'entresol que fréquenta Montesquieu, une société du Luxembourg fondée par l'abbé de Choisy, la société de 1789 fondée par Sieyès et Condorcet se réunit régulièrement. On y retrouve une quinzaine des membres de la future classe des sciences morales et politiques. Les salons des philosophes et certaines académies de province agitent les mêmes projets. On commence à utiliser dans un sens favorable le mot « idéologue ». Le mouvement des idées a précédé les événements politiques. Les années 1789 et 90 ont paru confirmer cette évolution. L'année 1791 pouvait être celle des concrétisations. Trois importants rapports ont été publiés à cette date. Le premier est le discours de Mirabeau, en avril, avec son plan pour l'éducation, proposant une académie nationale composée de trois classes, sciences, littérature et philosophie. Cette dernière devait hériter de l'esprit de l'encyclopédie. Le second rapport fut présenté en septembre devant le comité constitutionnel par Talleyrand. Il proposait la création d'un institut national composé de deux classes, sciences mathématiques et physique et philosophie. Cette dernière était destinée à confirmer l'applicabilité universelle de la méthode analytique de Condorcet et à dispenser un enseignement supérieur en histoire universelle, économie publique et morale. Le troisième plan était celui de Condillac. Présenté à l'Assemblée, il proposait de créer une société nationale des arts et des sciences composée de quatre classes, sciences mathématiques et physiques, sciences morales et politiques, arts appliqués, littérature. La seconde classe se divisait en cinq sections dont les appellations révèlent l'état d'esprit de l'époque, analyse des sensations et des idées, selon le modèle de Condillac, loi naturelle et sciences sociales, économie politique, droit public et législation. Les trois projets présentaient plusieurs caractères communs. Ils coexistaient d'abord avec les anciennes académies encore en fonction. Ils échappaient à tout contrôle de l'autorité royale, constituaient le sommet d'une pyramide d'établissements d'enseignement, lycées et écoles centrales, qui mettaient en œuvre un idéal de pluridisciplinarité, ou mieux de fécondation croisée des savoirs, et supposaient que les sciences morales relevaient de lois comparables à celles des sciences physiques. Cette croyance fonde l'essentiel de la philosophie des Lumières. Quesnay, dès 1769, écrivait, je le cite, « Le tableau économique fait marcher les sciences morales et politiques à grands pas vers leur perfection, parce qu'il rend visible et comme palpable toutes les règles de l'ordre et toutes leurs conséquences. » 20 ans plus tard, pour affirmer leur autonomie par rapport aux académies existantes, Condorcet écrivait « Il est superflu de prouver que les sciences morales et politiques ne doivent pas être séparées et qu'on n'a pas dû les confondre avec d'autres. » En 1791, plus personne n'a de doute, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre les projets. C'était compté sans les événements. La Convention déclare la guerre et instaure la terreur. Elle rejette les trois projets, dont les auteurs sont d'ailleurs décédés ou emprisonnés ou exilés. Au motif que, je la cite, « la sagesse des peuples est supérieure à celle des nations ». Le 13 novembre 1792, elle interdit de pourvoir aux vacances des académies. Et par le décret du 8 août 1793, sur le rapport de Grégoire, elle les supprime comme gangrenés d'une incurable aristocratie. Et parce que le génie est sans culotte. Tout en chargeant son comité de l'instruction publique de présenter le projet d'une société destinée à l'avancement des sciences et des arts. Il faut attendre la chute de Robespierre et la fin de la Terreur pour que l'ouvrage soit remis en chantier. Mais les préoccupations et les hommes ne sont plus les mêmes. Le vocabulaire non plus, car toutes les démarches vont être formulées d'une façon grandiloquente qui nous fournit aujourd'hui encore des citations sublimes, mais un peu creuses. les préoccupations dominantes sont de tourner la page, de préserver les acquis de la première révolution, d'éviter le retour des violences et d'établir les fondements de la stabilité sociale. Mais la succession des coups d'État sous le Directoire ne le permet guère. Les acteurs nouveaux sont les disciples des précédents, nullement découragés dans leur ambition intellectuelle, mais dont l'assurance a cédé la place à une certaine verbosité. Ce sont Daunou, artisan principal, Lacanal, Roederer, Fourcroy. En préparant la constitution de l'an 3, qui va établir le directoire, Daunou reprend l'idée de la Convention et insère un article 298 qui dispose « Il y a pour toute la République un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences ». Il fait adopter le 15 octobre 1795, l'une des dernières séances de la Convention, les statuts de l'Institut national. Ceux-ci mettent tous les membres de l'Institut sur un pied de stricte égalité. Tous doivent présenter des mémoires et participer aux travaux. Il y a des séances publiques communes à toutes les classes. L'Institut n'est plus chargé d'orienter les établissements publics d'enseignement, mais seulement de mener ses propres études et des avis au gouvernement. Il se compose de 3 classes, sciences physiques et mathématiques, sciences morales et politiques, littérature et beaux-arts. La seconde classe se divise en 6 sections, analyse des sensations et des idées, morale, sciences sociales et législation, économie politique, histoire, géographie. L'Institut comprend 144 membres, dont 36 pour les sciences morales et politiques. Selon Daunou, c'est une idée grande et majestueuse dont l'exécution doit effacer en splendeur toutes les académies des rois. Ce sera en quelque sorte une encyclopédie vivante, l'abrégé du monde savant, le corps représentatif de la République des lettres, l'honorable but de toutes les ambitions de la science et du talent. Cet institut raccordera toutes les branches de l'instruction. Il leur imprimera la seule unité qui ne contriste pas le génie et qui n'en ralentisse pas l'essor. Il manifestera toutes les découvertes pour que celle qui aura le plus approché de la perfection exerce le libre ascendant de l'estime et devienne universelle parce qu'elle sera sentie la meilleure. C'est peu de dire que l'application ne remplit pas l'application du programme. L'ambition du programme. Il faut d'abord composer la seconde classe. Exclus les royalistes et les jacobins, les recrutements se font sur proposition de salons, ceux de Madame Helvétius et de Madame de Condorcet, de cercles de préfiguration. Parmi les membres de l'ancienne Académie des inscriptions et belles-lettres, qui ne trouve pas sa place parmi les 3 nouvelles classes? Parmi les militaires et les diplomates, notamment pour la section de géographie. Et enfin, parmi le groupe des idéologues, c'est-à-dire les héritiers des philosophes des Lumières. Le résultat est un peu surprenant. Malgré le contrôle du gouvernement, le spectre politique de la seconde classe est large. Il comprend un nombre significatif de membres issus des anciens ordres privilégiés, ayant acquis leur réputation sous l'Ancien Régime. La majorité d'entre eux n'a pas pris part aux assemblées révolutionnaires et ne souhaite pas le retour des agitations. Ils n'ont pas de mal à faire coïncider l'héritage des Lumières avec une vue conservatrice de la Révolution et ne développent pas d'hostilité envers la religion. Mais une minorité agissante, celle des idéologues, forme un bastion actif et s'efforce de donner l'élan aux travaux de l'Académie sans y réussir. En effet, dans le contexte troublé du directoire, les travaux de la seconde classe déçoivent. Ils manquent d'intérêt pour le public et le monde politique. Et surtout, les membres de cette classe ont du mal à se mettre d'accord entre eux. Sa composition reflète des contradictions dans la conception des sciences morales et politiques et des oppositions à l'évolution du directoire et à l'avènement du consulat. Si l'on recherche la cause de la suppression de la seconde classe, on dira simplement que Bonaparte a voulu éliminer les idéologues qui s'opposaient à son pouvoir. Les choses ne sont pas aussi simples. Qui sont les idéologues? On cite Daunou, Sieyès, Gara, Roederer, Jagney, Chénier, Cabanis, Le Breton, La Romiguière. Ce groupe n'est pas homogène. Ils n'ont pas dominé la seconde classe et n'y ont pas fait d'opposition politique. Ils ne sont pas tous opposants à Bonaparte. Il faut donc distinguer des causes épisodiques et des évolutions profondes. Certains ont soutenu, en 1792, que si l'on voulait aller au bout de l'esprit encyclopédique, il fallait donner le pouvoir aux savants, ce qui n'avait aucune chance de se produire. D'autre part, ils ont ennuyé le public par de pesants mémoires, se bataillant entre eux par des recommandations contradictoires et irréalistes. En même temps, ils désertaient leurs travaux académiques en participant au conseil du directoire, qui était agité. Surtout, leur groupe s'est fermé aux autres opinions comme seul dépositaire de la vraie doctrine. D'où la connotation péjorative du mot « idéologue » à partir de 1793. Mais il y a des raisons plus profondes. Le directoire correspond à un déclin de l'idéal encyclopédique qui constituait la base idéologique de la seconde classe. L'opinion penche alors pour un retour à l'ordre, à l'autorité de l'État, à la stabilité politique, à la morale et aux sentiments religieux. Elle manifeste un goût pour la culture académique et l'éloquence littéraire. Il reste que certains idéologues se sont opposés aux partisans de Bonaparte et ont provoqué la colère de celui-ci. Avec beaucoup de subtilité, Cambacérès, travaillant pour Bonaparte, fait le départ entre les récupérables et les vrais idéologues. Une campagne d'opinion est engagée contre ces derniers, accusés d'athéisme et de matérialisme. Bonaparte, dans un article qu'il publie, se moque des, je le cite, 12 ou 15 obscurs métaphysiciens qui se croient à eux seuls impartis, faisant de longs discours qu'ils croient perfides alors qu'ils sont seulement ridicules. Plusieurs mesures du consulat marquent bien le décalage entre la nouvelle politique et les positions des idéologues. Ainsi, la constitution du consulat, promulguée sans déclaration de droit, le rétablissement de l'esclavage, le concordat, la dissolution du Conseil de l'instruction publique, l'éviction des principaux idéologues du tribunat, la suppression des écoles centrales dans les départements, les attentions marquées par le pouvoir aux anciens membres de l'Académie française, la suppression de l'enseignement de la législation dans les écoles, car, je cite, « ce n'est pas une science reconnue ni bien définie ». Plus ponctuellement, les idéologues sont surveillés par la police. Fievé conseille à Bonaparte de les bâillonner. Plusieurs d'entre eux se sont cependant ralliés au coup d'État, Sieyès, Cabanis, et au consulat, Lebrun, Roederer, de Gérando, Bigot de Préameneux, Merlin, par leur participation au Code civil. La réforme peut alors intervenir sans secousse, mais elle est savamment dosée. Par décret du 23 janvier 1803, l'Institut est composé de 4 classes au lieu de 3, mais sans l'ancienne seconde classe. Les nouvelles classes correspondent aux anciennes académies supprimées, mais sans la dénomination. La première classe est celle des sciences physiques et mathématiques. La deuxième, langue et littérature française, de 40 membres, à qui sont rétablis des privilèges d'ancienneté. La troisième, histoire et littérature ancienne, et la quatrième, Beaux-Arts. La réforme de 1803 fut bien accueillie. Elle s'inscrivait dans l'action du premier consul, qui avait l'appui général de l'opinion. Elle confortait l'Institut, siège de l'Esprit des Lumières, dont le consulat ne s'était pas écarté, et étendait apparemment ses missions en créant 2 nouvelles classes. Les traditions académiques des membres des anciennes académies royales semblaient confirmées dans les classes correspondantes à leur académie. La suppression de la seconde classe ne suscita en réalité pas de protestation. Seul Gara s'indigna en déclarant que la disparition préludait au sacre. D'ailleurs, les membres de la seconde classe supprimés n'étaient pas éliminés de l'Institut, mais répartis dans les autres classes, selon leurs qualifications. Et ils ne perdirent nullement leur influence au sein de l'Institut. Devenu empereur, Napoléon conserva sa bienveillance à l'Institut et lui affecta, comme siège, en 1805, le palais des Quatre Nations. Il fallut donc s'habituer à ce que l'Institut, malgré ses 4 séances publiques annuelles communes aux 4 classes, organisa ses travaux selon des disciplines scientifiques séparées et s'éloigna des ambitions d'une méthode générale propre à la philosophie de l'encyclopédie. À la Restauration, en 1816, la question d'une suppression de l'Institut et de l'établissement d'une Académie des sciences morales et politiques fut évoquée. Louis XVIII trancha, en sagesse politique, par la double négative, pas de rétablissement des sciences morales et politiques, mais pas de suppression de l'Institut. Le premier XIXe siècle va renouveler profondément la problématique des sciences morales et politiques. Avec le développement de la révolution industrielle et la construction d'une philosophie qui lui corresponde. Bentham et Saint-Simon en tirent les premières conséquences en dégageant la notion centrale de l'utilitarisme pour l'un et du physicisme pour l'autre. À leur suite, c'est Jean-Baptiste Say qui introduit l'économie politique parmi les disciplines scientifiques et élargit sa recherche à toutes les questions intéressant la société. Lorsque Saint-Simon découvre l'économie politique, il est ébloui et passe du physicisme à l'économie politique qu'il considère comme la vraie science de l'homme. Selon lui, la société industrielle a pour base des intérêts, mais l'intérêt seul a pour effet de dissoudre le lien social parce que l'essor de l'industrie entraîne d'effrayants progrès, je le cite, de la cupidité personnelle et collective qui est la gangrène de la société. D'où la recherche d'un nouveau code moral qu'il place dans un nouveau catéchisme. Saint-Simon systématise sa construction et préconise d'établir un enseignement de la science sociale par trois chaires, la conduite industrielle d'une part, la science morale pour lutter contre l'égoïsme d'autre part, et enfin la connaissance positive des lois de la nature. Le tout couronné par deux académies, selon son projet, l'un des intérêts, c'est-à-dire Académie de l'économie politique, l'autre des sentiments correspondant aux sciences morales et politiques. Cette nouvelle idéologie scientiste est loin de représenter la tendance dominante sous la Restauration. Le régime évolue au contraire vers la réaction politique et religieuse. Il voit s'épanouir le romantisme en littérature, l'éclectisme en philosophie avec Victor Cousin et une nouvelle école d'historiens. Les historiens libéraux Guizot, Mignet, Augustin Thierry annoncent l'avènement des classes moyennes qui conduira à un degré inéluctablement à un degré supérieur de la civilisation. Diverses institutions, l'Athénée royal, le Conservatoire national des arts et métiers, le Collège de France, les salons libéraux, les journaux discutent d'une société privée des sciences morales et politiques que Guizot crée dès 1824, et où se retrouvent Royer-Collard, Victor de Broglie, Destu de Tracy, de Gérandeau, Roederer, Laremiguière, Benjamin Constant, Volney. Des historiens et des hommes politiques forment le groupe des doctrinaires qui soutiennent la thèse de la substitution dynastique des Bourbons dépassés par les d'Orléans, qui représentent, selon le mot de Michelet, la ressource libérale de la France, à l'imitation de la révolution de 1688 en Angleterre. Guizot déclare dans ses cours, chercher les lois des sciences morales et politiques comme dans les sciences physiques. Et il crée en 1828 la société « Aide-toi, le ciel t'aidera » pour accélérer le changement politique. Les Trois Glorieuses, en 1830, et l'Esprit de Juillet, malgré leurs ambiguïtés, contiennent une reviviscence de l'esprit des Lumières, du Saint-Simonisme et de l'économie politique. Mais, comme sous le Directoire, le retour des journées de violence à Paris et à Lyon remettait d'actualité un vif désir de stabilisation sociale. Louis-Philippe, le roi des Français, n'est pas un utopiste, mais c'est un homme du XVIIIe siècle, ouvert à cette orientation. Et c'est Guizot qui se fait l'artisan déterminé du rétablissement des sciences morales et politiques. Nommé ministre de l'Instruction publique dans le ministère du 11 octobre 1832, l'historien doctrinaire s'approprie l'idée et inclut dans son programme la fondation d'une académie nouvelle, je le cite, « pour orienter la vie intellectuelle et culturelle, non par un agent du gouvernement, mais par une société savante qui donnera une saine direction à l'intelligence élevée et éclairée. Dans la semaine de son entrée en fonction, il consulte Sieyès, qu'il trouve très affaibli, et confie à Roederer le soin de rallier les survivants de l'ancienne seconde classe. Tous approuvent et demandent le nom d'Académie à l'égal des autres anciennes classes. Guizot prépare le texte et fait signer par le roi, avant même la réunion des chambres et avant le discours du trône, l'ordonnance du 26 octobre 1832, créant au sein de l'Institut une cinquième Académie des sciences morales et politiques. Le nombre des membres reste fixé à 30, le nombre des sections passe de 6 à 5 par suppression de la section de géographie. Certaines appellations sont mises au goût du jour, l'analyse des idées et sentiments et sensations devient philosophie, l'histoire sociale et législation devient législation, droit public et jurisprudence, la statistique est ajoutée à l'économie politique, l'histoire enfin devient histoire générale et philosophique. Le rapport de Guizot au roi définit bien le contexte très politique de ce rétablissement. Il rend hommage, je cite, « aux sciences morales et politiques qui sont parvenues à un degré d'importance, de publicité, d'autorité jamais atteint jusqu'alors, et qui ont acquis un caractère vraiment scientifique, rigoureux, positif et utile, parce qu'elles sont devenues plus applicables. Le tout est dans le plus. » Le rapport poursuit. En substance, la stabilité de la charte et la vérité pratique des institutions peuvent braver les erreurs spéculatrices et les témérités les plus hasardeuses de la pensée. C'est bien le propre des gouvernements libres de résister aux épreuves dont s'effraie le pouvoir absolu. Les sciences morales et politiques serviront désormais, entre parenthèses et dans le texte de Guizot, on peut l'espérer, à raffermir ce qu'elles ont jadis ébranlé. Ce pragmatisme traduit évidemment un déclin de l'encyclopédie, de l'esprit encyclopédique, et des lois utopiques d'une science unique de la société. La feuille de route invite au travail et à la prudence. Guizot entend effacer 30 ans d'autoritarisme, affirmer la confiance du nouveau régime dans sa force civilisatrice et renouer aussi, il faut le dire, avec la grande tradition de la politique rationnelle et de l'application pratique des progrès scientifiques. Les académiciens s'occuperont désormais des problèmes sociaux, du travail, de la pauvreté, de l'état de la population, de la démographie, de l'éducation, du commerce. Louis-Philippe, d'ailleurs, confirme, je le cite, « Cette académie sera très utile, pourvu qu'elle ne soit pas trop pressée de se faire écouter et qu'ailleurs, on ne fasse pas trop de bruit. » En 1848, Cavaignac ne respecte pas cette feuille de route et fait appel aux membres de l'Académie pour écrire un traité affirmant le caractère sacré de la propriété et de la famille. Et il se heurte aux critiques des conservateurs comme des socialistes, l'accusant d'enfreindre la neutralité politique de l'Académie. En 1855, l'élection à l'Académie d'un opposant orléaniste, Odilon Barrot, contre le candidat de l'Empire, provoque la colère du gouvernement qui crée par décret, sans avoir consulté l'Académie, une sixième section sous le nom « Administration, politique et finances », nom qui n'avait rien de scientifique entre nous. Section composée de 10 membres, nommés par décret, que l'on appela les décemvirs. 10 ans plus tard, l'Empire libéral, représenté par Victor Duruy, supprime la sixième section et répartit les nommés entre les autres sections. Et le président d'alors de l'Académie, Louis Wolofsky, évoqua la victoire de l'Académie et déclara qu'elle déposait les armes hostiles, retenant de la décision de 1855 ce qu'elle avait d'utile et ne retenant rien de ce qui avait pu paraître inquiétant ou défectueux. J'évoque brièvement un dernier épisode. En 1998, le ministre de l'Instruction publique et de la Recherche, Claude Allègre, notre confrère, évoqua l'idée de créer, à côté de l'Académie des sciences morales et politiques, mais hors de l'Institut, une Académie des sciences humaines. Je ne mentionne ce projet qui n'eut aucune suite, que pour servir de transition à la dernière partie de mon propos, qui est de tenter un tableau de l'institution académique actuelle des sciences morales et politiques. Et je le fais parce qu'il me semble que les sujets évoqués jusqu'ici ne peuvent pas être sans aucune relation avec la situation actuelle. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, en 100 ans, les sciences physiques ont accompli des progrès spectaculaires, plus importants que depuis les débuts de l'humanité. Et les perspectives déjà certaines des projets futurs assurent des développements non moins importants. Durant les mêmes 100 années, la conduite des sociétés humaines a produit des catastrophes majeures et entraîné des violations massives des lois des sciences humaines et un recul général des valeurs et des méthodes que l'Occident avait lui-même dégagées comme ayant une portée universelle et permanente. Il en résulte une inversion de la position traditionnelle respective des sciences de l'homme et des sciences exactes. Le postulat d'optimisme qui avait fondé les sciences morales et politiques est remis en question. Le progrès fait peur. Il se matérialise et se défend et s'étend indéfiniment, mais provient essentiellement de perfectionnements scientifiques ou techniques. On n'attend plus la fin du monde, mais on redoute le monde à venir. Non seulement nous avons appris avec Valérie que les civilisations sont mortelles, mais peut-être la civilisation elle-même. L'homme s'était donné en 1945 les moyens de détruire la planète. Il accumule aujourd'hui, jour après jour, ceux de détruire l'environnement, la biodiversité et l'homme lui-même. Du moins, l'anti-humanisme de certains philosophes américains le prétend-il. Les sciences morales et politiques n'échappent pas au contre-coup de ces profondes mutations. À l'universalisme de la philosophie des Lumières se sont substituées des idéologies totalitaires, le marxisme, le national-socialisme, le maoïsme, des synthèses partielles comme la psychanalyse, l'existentialisme, le structuralisme, l'herméneutisme, le surhomme de Nietzsche, l'ominescence de Michel Serres et sans doute la synthèse partielle mais la plus achevée, le phénomène humain de Teilhard de Chardin. Si l'on considère non plus la conception globale, mais les différentes disciplines, on constate que les sciences de l'homme sont affectées d'un double mouvement. Elles se diversifient et se spécialisent. Mais il n'est pas sûr que les disciplines nouvelles, parfois les plus actives, fassent partie des sciences morales et politiques, comme le disait en introduction le président. Ainsi en est-il des sciences de l'univers, de son origine, des sciences de l'évolution, de l'environnement, des nanosciences, du génie génétique, de la neurologie, des neurosciences, des sciences du langage et des capacités cognitives des animaux, capacités cognitives des arbres, des machines même. Tout n'est pas quantifiable dans l'homme, et le corps humain n'est pas que physiologique. La conscience, l'expérience, l'invention humaine ne sont pas quantifiables. Le cerveau n'est pas un puissant ordinateur, et le plus puissant des ordinateurs n'est pas une imitation du cerveau. De ce survol, retenons que l'univers quantique où nous sommes entrés est celui de la probabilité. Les sciences physiques sont dominées par la mécanique quantique. Certaines disciplines des sciences humaines le sont également. On est en train de découvrir que les lois de la vie, de la biologie, ont aussi un caractère ondulatoire, imprévisible scientifiquement. Et tout récemment, la NSA nous a fait découvrir qu'il y avait aussi une information quantique qui avait ses lois. Certaines disciplines des sciences de l'homme se portent bien, peut-être trop. Ce sont celles qui obéissent aux méthodes de la science exacte. Et les autres, à savoir les sciences morales et politiques, semblent ne pas se porter bien. À propos des sciences de l'homme, en effet, les universitaires lancent des signaux de détresse et parlent de, je les cite, de sciences en crise, en état de siège. Le nombre des étudiants diminue, les crédits budgétaires aussi. Ces sciences sont sommées de démontrer leur utilité fonctionnelle, leur valeur ajoutée. La mondialisation les contraindrait à se dissoudre, ou à se désexceptionnaliser. Je ne suis pas l'auteur de la formule. Cependant, les institutions universitaires des sciences de l'homme se sont développées en France comme dans les autres pays. On peut citer le CNRS, l'Institut des sciences humaines et sociales, les départements des facultés des lettres des universités, l'École des hautes études en sciences sociales, l'École pratique des hautes études, la Maison des sciences de l'homme, le Réseau national des maisons des sciences de l'homme, la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme, l'Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales, et le dernier né, le Conseil pour le développement des humanités et des sciences sociales. Si ce dispositif, assez imposant, mais à vrai dire classique, inspire des inquiétudes à certains de ces chercheurs, on peut se demander si elles proviennent de défis extérieurs ou d'une certaine tendance à leur propre remise en cause. De toute façon, tout ce qui concerne l'enseignement et la recherche, en particulier des sciences sociales, ne peut être négligé par l'Académie. Celle-ci, pour sa part, a démontré qu'elle n'éprouvait, dans ce contexte général, aucun doute de légitimité et aucune baisse de sa détermination. Et je serais tenté, pour terminer, de dresser un diagnostic de sa situation actuelle assorti de quelques réflexions, si vous le permettez. Tout d'abord, il me paraîtrait naturel que nous ayons l'habitude de nous référer plus souvent aux grands travaux et aux mémoires de nos confrères célèbres, dont nous sommes les successeurs, dans chaque discipline et dans chaque fauteuil. D'autre part, nous devons prendre conscience du grand prestige dont jouit l'Institut de France hors de nos frontières. Il s'agit d'une richesse à ne pas sous-estimer, mais à cultiver au contraire pour notre propre gouverne, pour notre pays, mais aussi pour nos collègues étrangers qui nous observent et qui comptent sur nous. S'il n'y a au monde qu'une autre académie à porter le même nom, celle d'Argentine, nombreuses sont les académies qui se considèrent comme nos sœurs, nos cadettes, et qui souhaitent resserrer leurs liens avec nous. Par construction, nous sommes vis-à-vis des autres institutions des sciences de l'homme dans une position, je dirais, de couronnement, pour parler en termes d'architecture. Encore faut-il que cette position ne soit pas déséquilibrée, qu'elle soit admise, qu'elle nous permette d'assurer le rôle de passerelle, de plaque tournante entre différents partenaires ou disciplines. Et pour nous en assurer, je vous propose de jeter un regard circulaire autour de nous. Tout d'abord, quelle est, dans la hiérarchie des normes, la place de celles qui régissent l'Académie? Cette place a toujours été au plus haut niveau de l'ordre juridique. Sur la forme, on a prétendu que l'article 298 de la Constitution de l'an 3 n'avait jamais été abrogé. L'ordonnance de 1816, celle de 1832 et la loi de 2006 sont des lois solennelles. En vertu de cette dernière, je le rappelle, l'Institut et les académies qu'il compose sont des personnes morales de droit public à statut particulier, placées sous la protection du président de la République. Elles se recrutent par cooptation. Toutes les fonctions y sont électives. Elles s'administrent librement sous le seul contrôle de la Cour des comptes. Ce statut particulier, le même depuis 378 ans, a sa justification. L'indépendance est la raison d'être même et la nécessité de l'institution académique. Maintenant, non plus sur la forme, mais sur le fond, le Conseil constitutionnel a constamment reconnu un caractère constitutionnel au principe général de l'indépendance de l'enseignement supérieur. L'Institut et les académies sont assimilés, de ce point de vue, à la catégorie des grands établissements scientifiques de l'enseignement supérieur et bénéficient de ce fait de cette indépendance. Il en résulte que leurs statuts, qui sont approuvés par décret en Conseil d'État, ne peuvent être modifiés que sur la proposition de leurs instances compétentes, après approbation du Conseil d'État, mais non pas sous son initiative, mais sous son seul contrôle, et non pas par initiative bureaucratique ou politique. D'autre part, si nous regardons autour de nous, vis-à-vis des mondes gouvernemental et parlementaire, on a pu regretter que l'Académie ne soit pas suffisamment consultée lors de la préparation des grandes réformes, comme d'innombrables comités d'experts. Il est vrai que le calendrier parlementaire des réformes s'adapte mal à une consultation sereine, objective et approfondie. Mais l'Académie pourrait être consultée en amont. Elle peut d'ailleurs s'auto-saisir et n'a pas manqué de le faire à plusieurs reprises dans les années précédentes. Mais peut-être aussi pourrait-elle veiller à plus de contact institué avec le monde parlementaire et les commissions du Parlement. Vis-à-vis du monde de l'université, il est de notre responsabilité de ne jamais laisser s'établir un fossé. Les entretiens que nous établissons le lundi matin, de façon si heureuse, avec les responsables du monde de l'entreprise et de l'économie, ne faudrait-il pas les rechercher aussi avec les responsables de l'enseignement ? Comme d'ailleurs avec ceux de l'armée, des professions libérales, de la communication. Par ailleurs, à une époque où les travaux intellectuels et universitaires sont soumis à des processus d'évaluation, l'Académie des sciences morales et politiques ne devrait pas se satisfaire d'une auto-évaluation, le plus souvent implicite, et encore moins d'une auto-célébration. Je reprends là une observation déjà formulée ici en 2007 par notre confrère Jean-Claude Casanova. Vis-à-vis de la littérature et de la culture, la question méritait à elle seule d'être approfondie. Mais rappelons que les vrais écrivains sont par nature des moralistes, ayant une vaste audience, et que l'histoire et la critique littéraire ont fait partie des disciplines de notre académie et contribué à son rayonnement. Vis-à-vis des sciences, nous constatons que la plupart des grandes questions de société relèvent aujourd'hui des missions de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie des sciences, et font l'objet de travaux dans les deux académies. Ces travaux devraient être le plus souvent possible menés non pas séparément, mais conjointement. Ce qui est vrai des travaux interacadémiques au sein de l'Institut l'est également des travaux avec les académies et sociétés savantes extérieures ou étrangères. Cette question est centrale à l'évidence. Les sciences morales et politiques se tiennent à l'interface entre les sciences de l'homme et les progrès scientifiques. Les sciences de l'homme ont sans doute abandonné leurs prétentions et leurs positions de supériorité antérieures et laissé dans bien des cas le progrès scientifique dominer les relations sociales et même la vie intellectuelle. Elles ne sauraient prétendre exercer un magistère suprême en la matière, ni se placer en couronnement des couronnements, pour reprendre l'image de l'architecture. Mais la position nécessairement centrale des sciences morales et politiques demeure. Elle leur permet, et c'est l'essentiel, de poser les questions d'éthique et de contribuer à définir, avec les scientifiques, les limites de la science. Quelle que soit son immensité, cette tâche revient par tradition historique et par vocation à l'Académie des sciences morales et politiques. C'est en elle-même qu'elle trouve les moyens de la poursuivre. Ces moyens sont la force de la pensée indépendante, le culte de l'excellence, une ouverture vers l'avenir, un refus de la spécialisation et de l'utilitarisme, et le dévouement passionné au bien commun. Aujourd'hui, comme hier, c'est donc bien comme institution que l'Académie des sciences morales et politiques contribue à maintenir l'homme au cœur des valeurs, des préoccupations et des efforts de la société. Il n'y a plus rien là d'utopique, simplement un appel d'urgence pour ne pas laisser s'éteindre une lumière qui est le propre du genre humain et qui fait sa dignité et son épanouissement, celle de la civilisation. Je vous remercie.
Je vais donner la parole d'abord à M. Jean Tullard.
Merci, M. le Président. Permettez-moi, M. le Chancelier, de revenir sur la suppression de notre classe en 1803. Comme vous l'avez très bien souligné, elle fut politique. Les idéologues s'étaient opposés au concordat et avaient même, on l'a oublié, froncé le sourcil lors du rétablissement de l'esclavage en 1802. Les propos de Bonaparte sur les métaphysiciens sont sans équivoque. La suppression de l'Académie de la classe des sciences morales et politiques est purement politique. Mais, comme vous l'avez aussi souligné, on ne l'épure pas. Les membres de la classe des sciences morales et politiques sont dispersés entre les autres académies. en sorte que Talleyrand se retrouve parmi les latinistes des inscriptions et belles-lettres, lui dont le latin d'église était déjà très limité, et il ne paraîtra plus à l'Institut. La catastrophe, elle est ailleurs, et je l'avais déjà souligné au sein de cette académie. C'est que la réforme de 1803 amorce une séparation entre les classes pour les orienter vers des académies qui seront de plus en plus autonomes, de plus en plus indépendantes. C'est ça l'erreur de Bonaparte, dont on sait combien je me suis fait le chantre, mais là c'est une erreur mortelle pour l'Institut. Songez qu'avant 1803, Monge, Berthollet, Laplace, Lagrange, Bernardin de Saint-Pierre, Talleyrand, Chaptal, Volney, David, Houdon, Méhul ne parlaient que d'une seule voix. Après, c'est fini. Il y a des académies, il n'y a plus cet institut qui, je le rappelle, et c'est ce qui faisait sa force, était inscrit dans la Constitution de 1795, privilège que nous avons perdu. Alors, vous l'avez esquissé dans vos conclusions, cette séparation entre les académies est fatale pour l'Institut. C'est la réflexion que je souhaitais livrer à notre seul, ou presque, dénominateur commun, Monsieur le chancelier de l'Institut. Merci, monsieur.
Merci, monsieur Tullard, monsieur le secrétaire perpétuel.
Merci, monsieur le chancelier, de cet exposé. Je voudrais poser une question qui est assez consécutive, d'ailleurs, finalement, à ce que vient de dire Jean Tullard. Jean Tullard dit qu'en 1803, la suppression de la classe des sciences morales et politiques avait un caractère politique. Mais sa création en 1795 aussi, puisqu'il s'agissait bien précisément de créer un lieu dans lequel des esprits qui ne soient pas trop marqués par l'aristocratie et par le catholicisme puissent s'exprimer. Et ce qui me semble assez frappant dans la difficulté qu'il y a eu ensuite de faire vivre ce milieu, notamment des idéologues, entre 1803 et 1832 de la Restauration, c'est que précisément eux-mêmes, en grande partie, se réclamaient de l'athéisme, d'un regard physiologique ou scientifique sur la morale. Voyez un homme comme Volney, par exemple, qui avait même écrit, je crois, un livre sur les principes physiques de la morale. Et donc, ils étaient perçus très tôt et durablement dans cette période comme, en quelque sorte, des résistants à l'esprit religieux. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Volney s'est fâché avec Napoléon, je pense, sous le contrôle de Jean Tullard, c'est lors du Concordat. Donc, est-ce que, au fond, notre académie n'a pas été marquée d'emblée par un caractère politicien très marqué, aussi bien dans sa création de 1795 que dans sa suppression de 1803, et que finalement, et je parle aux spécialistes de Guizot, que dans sa restauration en 1832.
Merci, Madame la vice-présidente.
C'est à côté, c'est à droite.
Oui.
Merci. Oui, je voudrais vous poser une question, Monsieur le chancelier, à propos du lien entre morale et politique qui est supposé ici. Nous savons tous que le lien moral et politique provient essentiellement d'Aristote. Aristote ne sépare pas les deux notions qui au fond la même finalité. Et puis, tous les historiens de la pensée philosophique et politique savent bien que les deux notions se sont séparées à l'époque de Machiavel. La politique se sépare de la morale et au fond, la politique se met à servir exclusivement la durée. Elle ne sert plus la morale, elle sert la durée de l'État. D'ailleurs, il y a là un certain passage à ce moment-là de Cicéron cité par Augustin, à l'époque où ce passage de Cicéron n'était pas encore disponible puisqu'il n'a été découvert qu'au 19e, un certain passage qui a vraiment servi de fondement à cet égard pour la séparation de la politique et de la morale et la servitude, pour ainsi dire, de la politique à la durée. Et on sait que, finalement, au XXe siècle, c'est Hitler qui a littéralement profané la valeur de durée, la rendant littéralement indisponible. La durée pour un État, j'entends, pas la durée, bien sûr, pour un groupe ou pour une personne. Alors ma question est-ce que la liaison entre la morale et la politique a une signification ici, une signification historique et philosophique de ce genre ou non ? Est-ce qu'il y a une sorte de rappel à Aristote ou bien pas du tout?
Merci. Monsieur Fumarly.
L'abbé Alari, il n'était pas une personnalité d'opposition du tout, puisqu'il était un des précepteurs du jeune dauphin, et où s'est déroulé dans l'entresol, justement, d'un très bel hôtel de la place que nous appelons Vendôme aujourd'hui, dans les appartements du président Hinault, un grand dialogue qu'on oublie trop entre le jeune Montesquieu et puis Lord Bolingbroke, qui était un homme d'État anglais, Tory, réfugié en France, mais qui a appris aux Français ce que c'était que le système anglais et ce que c'était que la révolution de 1688, dont tout Tory qu'il était, il était très fier. Alors, il y a eu là un moment assez extraordinaire. L'abbé de Saint-Pierre a participé à ces réunions. Voltaire, évidemment, y a fait aussi son éducation politique. Mais tout allait vers la création d'une nouvelle académie qui aurait été une académie de sciences politiques. Et c'est le cardinal Fleury qui a pris peur. Il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout là où avaient été ses prédécesseurs, puisque, au fond, l'Académie des inscriptions et belles-lettres existait bien avant qu'elle ne devienne académie. L'Académie française a existé bien avant qu'elle ne devienne académie. Et là, on avait le processus tout préparé, en quelque sorte. Aucun de ces futurs académiciens n'a d'ailleurs été troublé, il n'a pas été accusé de quoi que ce soit. C'est tout simplement que l'abbé Fleury, ou plutôt le cardinal Fleury, a eu peur que cela devienne un examen au jour le jour, par exemple, sa politique étrangère, qui n'avait pas toujours la faveur des gens intelligents du moment. Et il me semble qu'il est très étrange qu'il n'y ait plus jamais eu aucun livre, aucune étude approfondie sur cette académie naissante, en quelque sorte. Et le seul témoignage approfondi que nous ayons, ce sont les mémoires du marquis d'Argenson, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant un bon moment, et qui montre bien qu'il s'agissait non seulement de méditer sur les bons principes de l'État social, mais également sur les bons principes des rapports entre les nations à l'intérieur de l'Europe. Donc la politique étrangère aurait été, en quelque sorte, un des éléments de la recherche dans l'Académie, qui n'est pas née, malheureusement, et qui, je crois, aurait empêché un certain trouble de l'opinion publique française, qui a été obligée, en quelque sorte, de départager un peu au hasard entre les points de vue de Rousseau, le point de vue de Voltaire, le point de vue de Montesquieu, alors que cette académie aurait peut-être permis justement que l'on réfléchisse d'une façon un peu moins hasardeuse. Merci.
Merci, monsieur Fumarly. Monsieur Soutou.
Monsieur le Président, merci. Monsieur le Chancelier, votre récit, votre description, votre évocation et la discussion qui a commencé ensuite m'amène à une réflexion sur institut avec des classes ou académies indépendantes réunies au sein d'un même institut, ce qui est tout à fait fondamental. Alors, je dirais que la beauté de l'histoire de notre institut, c'est de réunir des académies aussi diverses par leurs origines, presque contradictoires, que l'Académie française ou l'Académie des sciences, d'ailleurs royale à l'origine, et la nôtre, qui est carrément révolutionnaire dans ses origines, on l'a bien vu. Et je fais une réflexion sur les autres pays. Actuellement, je ne connais qu'un cas, et encore pas totalement comparable, sauf erreur de ma part, relativement comparable, c'est l'Académie des sciences de la Fédération de Russie, héritière de l'Académie des sciences de l'Union soviétique, qui joue un rôle intermédiaire entre notre institut et le CNRS. Enfin, elle regroupe les deux, pour dire les choses très, très rapidement, et qui, elle, réunit effectivement dans une seule entité les différentes classes. dans les autres pays qui ont des académies, et ce n'est pas le cas de tous les pays, autant que je me souvienne, en parlant maintenant, j'ai l'impression que dans tous les cas, les académies sont séparées selon certaines grandes vocations. Elles sont distinctes selon certaines grandes vocations. Ce qui m'amènerait à penser qu'il y a peut-être une raison profonde à cette distinction en dehors de l'histoire factuelle que nous avons évoquée, mais des raisons proprement intellectuelles qui posent tout le problème de la multi- ou pluridisciplinarité pour coopérer avec les autres, et d'autant plus que l'on est amené à coopérer étroitement. Il faut en même temps, pour que ce soit significatif, être toujours pleinement soi-même, n'est-ce pas ? Ce qui fait que, pour ma part, je trouve que la formule de travaux conjoints par thème précis entre telle ou telle des académies est probablement la plus utile pour l'avenir. Nous avons fait avec Jean Béchler une expérience de coopération sur le problème des experts avec l'Académie des sciences, qui était tout à fait, à mon sens, tout à fait intéressante. Donc, ce serait peut-être un moyen pour l'avenir de sortir de cette difficulté. Je ne recommanderais pas en ce moment, ou même d'ailleurs en général, l'idée de revenir sur nos statuts, qui ont l'avantage de se perdre dans une antiquité propice, n'est-ce pas ? Comme disait Saint-Simon, il ne faut jamais interroger le mystère des origines. Monsieur Chancier, je vous remercie.
Merci, Monsieur Bachelet.
Ben pour compléter les propos de Monsieur Soutou, Monsieur le Chancelier, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Madame Bréchignac et donc l'Académie des sciences, nous avons décidé de manière impromptue d'organiser un entretien le lundi matin 3 ou 5 mars sur un thème qui nous est commun, du moins qui nous sollicite de manière commune, sur les limites. Et Madame Delmas-Marty et moi-même prendrons la parole. Il y aura deux membres de l'Académie des sciences et nous attendons avec une impatience croissante le délégué de l'Académie des beaux-arts qui pourrait nous parler. Et si cette expérience s'avère positive, il est entendu que nous essayerions, au niveau de nos académies respectives, d'institutionnaliser ce dispositif, étant bien entendu qu'il ne s'agit pas de juxtaposer des réflexions, mais de prendre des questions dont les réponses exigent des points de vue qui sont représentés dans nos différentes académies. Alors l'avenir, bien révélera, mais ça va exactement dans... Nous avons précédé vos souhaits, Monsieur le Chancelier.
Merci. Monsieur le Chancelier, si vous le permettez, je voudrais poser quelques questions à la suite de l'exposé parfaitement architectonique, magistral, que vous nous avez présenté. La première question est la suivante. Guizot assigne pour objet aux sciences morales et politiques la civilisation. Et il distingue deux aspects de celle-ci, un aspect extérieur, réel, qui est l'objet des sciences sociales ou des sciences politiques, et un aspect intérieur, moral, aussi bien au sens du moral qu'au sens de la morale. Et ça, c'est l'objet des sciences morales. L'extérieur, l'intérieur. Il considère que ces deux aspects sont fondamentalement liés et il déclare à l'issue de son cours de 1828 sur l'histoire de l'Europe qu'il a traité, dans l'année qui vient de s'écouler, de l'aspect extérieur, de l'objet des sciences politiques, et qu'il va traiter l'année suivante de l'aspect intérieur, l'objet des sciences morales. Ce qui signifie que par avance, il récuse la grande coupure qui va devenir courante au XIXe siècle, en particulier, on la trouve chez Weber et d'autres, entre les sciences normatives et les sciences positives et factuelles. Pour Guizot, ce n'est pas la vraie coupure, parce qu'il y a du positif et du normatif, aussi bien dans le moral ou la morale, l'intériorité, que dans le social et le politique. Et je me demande s'il n'a pas raison. Est-ce qu'on peut saisir un fait sans le mettre en perspective nécessairement sur une sorte d'idéal? Et de même, est-ce qu'on peut saisir ou définir un idéal sans le couper des faits? Alors la question, ma première question est la suivante. Selon Guizot, de ces deux aspects qui constituent la civilisation, quel est le plus important? Est-ce que c'est l'objet des sciences morales ou l'objet des sciences politiques? Ma deuxième question a trait à un thème que j'ai beaucoup apprécié dans ce que vous avez dit, qui me semble tout à fait captivant, l'opposition de l'encyclopédie et de l'académie, l'opposition des idéologues et du Premier Consul. L'encyclopédie, c'est la destruction du livre, le livre, la Bible, et son remplacement par la bibliothèque. Un ensemble de livres qui sont en réseau, il y a des renvois, mais il n'y a plus d'unité. Bonaparte veut l'unité, et d'abord dans le champ pratique, et ce sera les codes. Quant à l'académie, c'est essentiellement l'affirmation de l'unité, d'une unité qui doit mettre un terme au désordre encyclopédique. Je crois que cela renvoie à une critique que Guizot fait du XVIIIe siècle, vous l'avez magistralement exposée. Le XVIIe siècle a été, selon lui, le siècle du commandement, Louis XIV. Le XVIIIe, c'est ce qu'il appelle le siècle de l'esprit, c'est-à-dire de la théorie qui n'est pas appliquée, et vous avez rappelé la nécessité, précisément, qu'il y avait à appliquer plus ces sciences. C'est le thème de Guizot. Ma question, ma deuxième question est la suivante. Est-ce que ça n'est pas posé ici le problème qui se pose à toute académie et à la nôtre? Comment concilier l'unité de l'académie et la pluralité de ses disciplines ou de ses sections? Comment envisagez-vous l'avenir ou qu'est-ce qu'il faudrait faire de ce point de vue en ce qui concerne le rapport donc de l'unité et de la pluralité? Ma troisième question concerne ce que vous avez dit magnifiquement lorsque vous avez insisté sur la nécessité pour nous de nous référer aux grands travaux du passé et de ne pas faire comme si tout était nouveau et tout était apparu seulement aujourd'hui. Et je dirais que je me réjouis de voir certaines sciences parmi les plus actuelles en leur positivité retrouver un vieux thème qui avait été illustré et appliqué pendant des décennies dans l'école républicaine, à savoir qu'il faut commencer par les commencements, commencer par les syllabes, venir ensuite aux mots, s'élever à la phrase pour terminer, si possible, par le discours. Je suis surpris de constater que les résultats des travaux de notre éminent confrère de Haine apparaissent à un certain nombre de lecteurs, par exemple de lecteurs du Monde, qui ont écrit là-dessus, comme si c'était une découverte. C'est très bien que les neurosciences confirment ce qui a été nié depuis 50 ans dans l'école française, qu'il a tué et qui continue de la tuer. Ce sont les mêmes méthodes dites globalisantes que l'on continue de pratiquer. Alors, bien sûr, il y a la grande question métaphysique du rapport de l'esprit et du cerveau. Mais d'un point de vue phénoménologique de l'expérience, on peut dire tout autant que l'esprit, c'est l'esprit, c'est le cerveau éprouvé de l'intérieur, et que le cerveau, c'est l'esprit expérimenté de l'extérieur. Peu importe, Aristote avait parfaitement dit que l'âme était la forme, c'est-à-dire l'unité, c'est-à-dire l'intérieur, unifiant du corps. Par conséquent, laisser, si vous voulez, dormir un peu les grandes questions métaphysiques et tirer parti de cette conjonction heureuse entre des apports actuels et ce qui a été une très grande tradition dans la pratique de l'enseignement français. Ma dernière question est la suivante. Vous avez évoqué la tentative de notre confrère Allègre d'éventuelle création de sciences humaines. Il s'agit d'une question d'appellation, mais c'est tellement important, les appellations. Est-ce que vous me permettez de vous interroger sur ce que vous considérez comme devant subsister, être intensifié, à savoir l'appellation actuelle, en particulier pour nous, de science morale et politique? Pas d'autres questions ou observations?
On n'ose plus.
Pardon?
On n'ose plus.
Bon, voilà. Monsieur le chancelier, je vous rends la parole.
Je vous remercie, monsieur le président. C'est bien volontiers que je réponds à mes confrères en les remerciant chacun de leurs questions. Surtout le premier, mon confrère Jean Tullard, qui nous a donné l'occasion rare d'assister à une condamnation du premier consul coupable d'une erreur mortelle en 1803. Alors, en effet, je crois l'avoir montré, c'est une réforme politique, en effet, évidemment, et qui a tendu, très subtile d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même une unité, l'Institut subsistait, et il y avait des séances communes, 4 séances annuelles communes, mais chaque classe redevenait une sorte d'académie, c'est bien clair. Et à la grande réjouissance de tout le monde, sauf des idéologues, qui étaient non pas exclus, mais dispersés. Alors, est-ce une séparation fatale? Je crois qu'il faut introduire une étape intermédiaire entre les souvenirs que vous avez rappelés et maintenant. L'étape intermédiaire, c'est celle de Renan et de sa citation célèbre, qui a dit, dans une citation qui figure partout, « Tous les pays ont des académies remarquables et merveilleuses. Seule la France a un institut dans lequel les différentes disciplines peuvent confronter leurs points de vue et dans lequel l'historien, le savant, le médecin, l'artiste, etc., peuvent s'appeler confrères. » Il disait ça avant la fin du 19e siècle. Enfin, eh bien, la constatation de Renan, nous pouvons encore nous en servir aujourd'hui. Le cadre dans lequel nous pouvons nous appeler confrères existe et il est fort. Il est simplement ce que j'ai dit, je crois, c'est que, ce que vous rejoignez d'ailleurs, c'est que les structures de chacune des académies, en se solidifiant, en s'enracinant, se réenracinant, n'ont pas développé beaucoup de tentatives de travailler en commun. C'est vrai. Et je crois que plusieurs interventions l'ont noté aujourd'hui. Et alors, c'est particulièrement vrai dans tous les problèmes de société générale aujourd'hui qui relèvent pratiquement tous d'une compétence conjointe de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques, mais pas uniquement, d'autres aussi. Et donc, la question, je ne pense pas que ce soit une séparation fatale. La construction exige, j'y reviendrai à propos des autres questions, des autres confrères qui ont posé la même question. Pour ma part, je serais plutôt partisan de la stabilité d'une structure qui a fait ses preuves, qui est là, et toujours dangereux de provoquer des grands changements. D'ailleurs, les expériences que j'ai retracées à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe le montrent bien, n'est-ce pas ? L'ambition était grande, mais le résultat a été assez piteux. Et donc, je crois qu'il faut améliorer la construction et l'améliorer en rétablissant des opportunités de travaux entre les académies, mais pas seulement entre les académies, entre sociétés savantes, entre les académies et leurs correspondantes, à l'intérieur de nos frontières ou à l'extérieur. C'est, à mon avis, une des choses les plus, probablement les plus importantes qui s'imposent aujourd'hui et qui a été très heureusement engagée, je reviendrai tout à l'heure, par les entretiens du lundi matin en répondant à M. Béchler. Et donc, erreur mortelle, je n'irai pas aussi loin que cela vis-à-vis du premier consul. Erreur sans doute, mais pas mortelle et pas séparation fatale, mais améliorable. Alors, à monsieur le secrétaire perpétuel, je constate en effet, comme vous-même, que les démarches de 1795 et de 1803 ont été très politiques, trop politiques d'ailleurs. Celle de 1795 aussi, par utopisme, par doctrine, et celle de 1803 par peut-être pragmatisme, science du gouvernement. Mais celle de 1816 aussi, car au fond, le mouvement de Louis XVIII pouvait être beaucoup plus facile s'il rétablissait simplement les académies, ça aurait été beaucoup plus simple. Il ne l'a pas fait. Et il a maintenu cette structure dans laquelle nous vivons, symbiose, que pour ma part, je dis qu'elle est une symbiose heureuse, mais et qui, elle, alors, n'a plus rien de politique. Je reviendrai là-dessus, ça me paraît le point essentiel. C'est que le départ entre les réformes politiques et ce qui se passe maintenant, c'est que je crois que les secousses du 18e, 19e jusqu'en, disons, 1848, les dernières secousses, c'est 48, 52, le Second Empire, eh bien, c'est une période dépassée. Et il me semble que nous avons atteint une période vraiment académique, c'est-à-dire que plus personne ne conteste la nécessité de compagnies académiques dont, encore une fois, la reconnaissance officielle et l'indépendance sont la raison d'être. Il me semble que nous avons atteint. De quand peut-on dater cela ? La dernière secousse, finalement, c'est celle du Second Empire. Et après, plus personne n'a contesté la reconnaissance par les pouvoirs publics des compagnies académiques. Il me semble alors que ce spectre de bouleversement politique de la construction de l'institution académique est une perspective dépassée, heureusement. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle est dépassée. Et souhaitons qu'elle le soit définitivement. Alors, Madame Chantal Delsol a abordé la question qui est évoquée à nombreuses reprises de la vraie signification de l'expression « les sciences morales et politiques ». Ces deux termes sont-ils distinctifs ou cumulatifs ? Y a-t-il des sciences morales et des sciences politiques ? Où y a-t-il des sciences qui sont à la fois morales et politiques ? Alors, une analyse littérale, d'abord, montre que, au fond, les philosophes du XVIIIe siècle ont plutôt penché pour la conception cumulative, en tout cas Condorcet, sûrement. Mais ça ne se traduit pas très bien dans leur formulation, parce que le plan le plus achevé, c'est celui de Condorcet. Il dit qu'il y a, d'une part, une classe des sciences morales et politiques, et d'autre part, une classe des sciences mathématiques et physiques. Alors, la ressemblance des formules tend à prouver que ça serait distinctif, n'est-ce pas ? Il y a des sciences mathématiques et des sciences physiques, et puis il y a des sciences morales et des sciences politiques. Or, en réalité, non. Il y a des sciences mathématiques et physiques d'un côté, c'est distinctif, et puis il y a des sciences morales et politiques, c'est cumulatif de l'autre. Moi, c'est mon interprétation. Et je crois que, en tout cas,
c'est l'interprétation qui prévaut dans la réforme de Guizot. Guizot, lui, a la claire conception d'une... Comme Condorcet, d'ailleurs, il rejoint complètement Condorcet en disant que les sciences nouvelles, les sciences de l'homme, disons, pour employer, sont à la fois morales et politiques. Les deux termes n'étant pas séparables, on n'a pas dû les séparer, et il ne faut pas les séparer. Et c'est en cela qu'ils ont leur richesse, leur diversité, leur originalité et leur ambition, d'ailleurs. Alors, je me souviens qu'un conférencier ici, s'exprimant devant l'Académie à propos de Guizot, il y a plusieurs années, avait fait une remarque à propos de Guizot en disant que c'était pas, enfin, ses conceptions n'étaient pas très précises parce qu'il avait mélangé morale et politique et qu'en réalité, la religion n'avait rien à faire là-dedans. Il avait dit cela, exactement. Et tout le monde a compris qu'il n'avait rien compris. Et qu'en réalité, il n'est pas question de religion. Il y a une préoccupation éthique, morale, dans les sciences de la société, dans les sciences de l'homme, qui est indissociable, qui fait partie, et que Guizot avait très bien réuni. Et donc, je crois que c'est à ce moment-là qu'elles ont été réunies. Et depuis, donc, c'est produit l'évolution scientifique, que j'ai à trop grand trait retracé, mais qui montre qu'il y a un développement extraordinaire, une diversification, des précisions dans les sciences de l'homme, les sciences humaines qui ont remplacé les sciences sociales. Le terme est d'ailleurs dans la langue française, parce que les anglo-saxons ne parlent pas de « human science », et ils disent « social sciences ». Et nous avons les sciences humaines. C'est à la fois plus précis, peut-être sur le périmètre, on pourrait discuter à l'infini, sur le contenu aussi, et ce qui montre que les querelles de vocabulaire ne sont pas les bonnes. On peut produire des rapports entiers sur le périmètre et la définition des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences morales et politiques. Nous avons de tradition historique l'appellation des sciences morales et politiques. Je crois que c'est un acte de foi de dire que l'expression est cumulative, qu'on ne peut pas les séparer et que la conception d'ensemble est à la fois la plus précise, la plus générale et la plus ambitieuse. Et que donc, on aurait grand tort d'accepter qu'elle soit remise en question. Et que s'il y a un développement considérable des sciences humaines par ailleurs, cela recoupe largement les sciences morales et politiques, mais pas complètement, comme j'ai tenté de le dire. Il serait intéressant, d'ailleurs, de faire le départ, c'est assez facile, mais que les deux choses, de toute façon, ne peuvent pas se confondre ni se réunir, et qu'il faut nous en tenir à cette signification historique, philosophique, politique aussi, de sciences morales et politiques, me semble-t-il. Alors, à mon confrère Marc Fumaroli, je remercie d'avoir évoqué le club de l'entresol, en effet pas assez connu, car c'est de la préfiguration, manifestement. Et ce dialogue entre Montesquieu et Bolingbroke est en effet ce qui prélude à la fameuse idée des doctrinaires de revenir à la substitution dynastique de 1688 en Angleterre, c'est-à-dire de changer de type de monarchie sans révolution, en substituant simplement une branche à l'autre. Et bon, c'était une grande sagesse politique et un grand pragmatisme. Alors, ce qui est curieux, je serais tenté de dire que le cardinal Fleury n'était pas Guizot. Il a eu peur. Et le régime politique n'était pas le même non plus. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir que les fondateurs de 1789, 91, 93, 95 ont commencé par une critique du pragmatisme de Montesquieu et du club de l'entresol et de ce premier anté-encyclopédisme qui était coupable, selon eux, de trop de pragmatisme et donc qui était hostile à l'édification d'une vraie science précise de la société. Et à cette période-là, dans les années 1790, on a fait le procès de Montesquieu comme étant donnant une trop grande part au pragmatisme. D'ailleurs, les lois, la définition des lois par Montesquieu, les rapports nécessaires qui découlent de la nature des choses, c'est le contraire d'une conception scientifique de la société. C'est une profession de pragmatisme absolu. Et donc, ça a été très critiqué à l'époque. C'est aussi un point à... Il a fallu une déconstruction, n'est-ce pas, de cette première philosophie politique de Montesquieu pour arriver à l'esprit de l'encyclopédie. Alors, je réponds au professeur Jean-Joël Soutou. Alors, institut avec des classes ou académie séparée sans institut. Alors, je ne sais pas si on peut faire un parallèle entre l'Académie des sciences de Russie et ce qui existe chez nous. L'Académie des sciences de Russie est une immense organisation qui a des centaines et des centaines de laboratoires, qui a des dizaines de milliers de collaborateurs, qui est à la fois le CNRS, l'Agence nationale de la recherche, plus les laboratoires, plus accessoirement une académie. Mais c'est vraiment, ça ressemble de très très loin à une académie. Je parle en présence de Madame Hélène Carlanco, je pense qu'elle confirmera si elle le souhaite. Je ne pense pas qu'on puisse trouver quoi que ce soit de référence pour ce qui nous concerne. La réponse est la même en ce qui concerne l'Académie des sciences de Chine. Même chose, un immense organisme. Alors, si on fait un peu de comparatisme, on s'apercevra qu'il y a, comme j'ai dit, une seule Académie des sciences morales et politiques en Argentine. Toutes les autres sont des académies d'histoire, des lettres, de l'Antiquité, etc. Ou bien Académie des sciences humaines, mais ce sont en réalité nos sœurs. Et nulle part n'existe un institut qui regroupe les différentes académies, sauf en Espagne, où il y a un institut d'Espagne, mais cet institut d'Espagne n'a pas du tout la même histoire et ne peut pas être considéré comme le pendant de l'Institut de France, car c'est une création de Franco, tout à fait parasitaire et autoritaire, qui n'a pas de réalité académique à proprement parler, et dont l'existence même est remise en cause périodiquement. Et cet institut d'Espagne ne joue pas du tout le même rôle que les académies royales d'Espagne, qui, elles, ont une totale indépendance. Et donc, ça n'est que nominalement qu'il existe un institut, mais c'est le seul exemple. Alors, les académies sont séparées du point de vue de leurs travaux et de leurs missions. C'est le cas qu'il y ait un institut ou pas. Car à l'intérieur de l'Institut, les académies sont séparées de par leur vocation, de par le statut, par leur autonomie et de par la liberté qu'elles ont de conduire leurs travaux. Et donc, l'existence ou la non-existence d'un institut ne change pas grand-chose à cette situation. La vraie chose, c'est qu'il est de plus en plus nécessaire de favoriser les travaux entre les académies. Je reviens à ce que je disais au début. C'est vraiment une réalité qui s'impose à tous. Il est souhaitable que cette réalité pénètre les esprits et que le particularisme très grand qui existe au sein de chacune de nos académies, se double d'une conscience que, de plus en plus, il est nécessaire de s'ouvrir aux travaux des autres académies et des autres sociétés savantes, nous ne sommes pas les seuls, et que nous ayons un regard général sur l'évolution des idées au sein de notre société. Ce n'est pas trahir un secret que de dire, en présence de Mme Hélène Carrère-Lancos, que la question était évoquée ici même, dans la dernière séance de l'Académie française, avec le souhait d'ouvrir les travaux à d'autres académies. Donc c'est une préoccupation que je crois nous devons faire progresser. Et nous n'avons que des avantages et des améliorations à retenir de cette nouvelle orientation. Ce n'est pas si facile que cela. Il faut l'organiser, il faut le préparer. Ça ne peut se faire que longtemps à l'avance, par dose homéopathique, en choisissant bien les sujets, en évitant tout échec, parce qu'un échec rendrait les choses encore plus difficiles. Mais tout ce qui peut contribuer à cela me paraît extrêmement souhaitable, non pas en soi,
intellectuellement, mais dans la situation générale dans laquelle nous sommes et dans laquelle sont les questions de la société en général aujourd'hui. Il faut élargir la réflexion et essayer de l'approfondir entre disciplines différentes. Alors je répondrai à M. Bechler en me félicitant avec lui et comme lui du succès des entretiens du lundi matin des sciences morales et politiques. C'est une chose neuve qui a, comme les choses qui marchent assez vite, n'est-ce pas, finalement. Et les entretiens du lundi matin ont marché très vite, bien, très bien. Et c'est un enrichissement incontestable. Et il faut le développer. Je disais ce matin que ça a très bien marché sur le terrain économique et avec les dirigeants du monde de l'économie. C'est naturel. Mais m'adressant à l'ensemble de l'Académie, je pense qu'il serait souhaitable d'avoir une espèce de prévision à long terme des entretiens du lundi et d'avoir des entretiens avec d'autres représentants, d'autres parties de la société. Je citais le monde de l'enseignement. Bon, on pourrait parler de l'armée, de la défense, de la guerre. Il y a tant de choses à dire. Et avec cette grande démarche conduite par M. Bechler en ce moment sur cette question-là. Et j'évoquais aussi, mais nous le faisons, mais trop partiellement, avec les responsables des médias et le monde de la communication. Il y a là une fenêtre indispensable sur laquelle nous devons nous ouvrir et établir des espèces d'habitudes de dialogue. Et alors, Monsieur le Président, je répondrai, essaierai de répondre à vos trois questions. Alors, vous avez distingué l'extérieur et l'intérieur, la coupure entre les deux, qui n'est pas la coupure entre le normatif et le ponctuel, de moins en moins d'ailleurs, car même les sciences exactes connaissent de moins en moins cette coupure entre le normatif et le ponctuel. Donc c'est une vision dépassée. C'était peut-être une vision d'autrefois, mais aujourd'hui les deux choses sont réunies. Le problème, c'est en effet morale d'un côté et exact de l'autre. Et donc, quel est le plus important des deux au sens de Guizot? Je crois que l'un des progrès de Guizot a été de réunir les deux dans une conception unique de la société, les progrès de la civilisation. C'était le thème de ses cours avant 1830. Et de ses publications après 1848, il a creusé cette notion et ces progrès de la civilisation englobent à la fois les progrès des sciences exactes et les progrès de ce normatif moral que l'on peut appeler, continuer d'appeler les sciences morales et politiques. Il me semble que nous avons tout intérêt à nous tenir à cette distinction-là, qui est, à mon avis, la bonne, mais en supposant que nous, dans notre vocabulaire, lorsque nous disons les sciences exactes et les sciences morales et politiques, en réalité, on élargit un peu le domaine des sciences morales et politiques en disant l'ensemble des sciences de l'homme, ce qui est un peu abusif. Mais c'est une raison de plus pour mener nos travaux en commun avec l'Académie des sciences. Alors, l'opposition entre les idéologues et le premier consul, entre la théorie de l'encyclopédie et l'académisme, je pense avoir abordé cette question, en effet, elle est profonde. Ce sont deux conceptions différentes de la société en devenir, et manifestement, nos confrères, appelons-les comme ça, du directoire, se sont trompés. Ils ont cru qu'ils arrivaient au pouvoir. Ils ont cru qu'ils pouvaient gouverner la société. Ils ont cru que les sciences morales et politiques allaient gouverner la société. Les malheureux. Je crois qu'on ne referait pas la même erreur aujourd'hui. Et j'ai appelé ça... nous ne sommes pas dans une situation de couronnement architectural. On n'a rien à surplomber. Simplement, on est dans une position centrale. On échange et on essaye d'approfondir le savoir. Alors, comment concilier l'unité et le spécial ou la pluralité des sections, avez-vous posé, Monsieur le Président? Je dis un mot, si vous me donnez encore quelques instants. C'est que c'est exprès que je n'ai pas abordé le problème des sections actuellement. Il y a des académies à vocation bien précise et particulière qui ont des sections, bien entendu, même des divisions, l'Académie des sciences. Il y a des académies avec des disciplines bien précises et particulières qui n'ont pas de sections, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Dieu sait qu'entre les spécialistes des arts de l'extrême-orient ou des civilisations de l'extrême-orient et de l'antiquité égyptienne et de l'antiquité grecque ou romaine, il n'y a pas beaucoup de points de communication, mais ils n'ont pas de sections. Et nous, nous avons des sections malgré la très forte unité du concept des sciences morales et politiques. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Si on prend dans le passé, on a constamment évolué, hésité dans le nombre et l'appellation des sections. Faut-il reprendre ce sujet et faut-il refaire du découpage dans ces disciplines tout de même assez difficiles à déterminer en tant qu'appellation et en tant que périmètre, c'est encore plus difficile. Ou faut-il se satisfaire de ce qui existe actuellement ? Je constate, et l'histoire l'enseigne, c'est que si on a consacré beaucoup de débats à déterminer le nombre des sections et leur appellation, 5, 6, 4 et l'appellation, on n'a jamais accordé beaucoup d'importance à l'élection des membres au sein des sections. Et au moment de l'élection des membres, eh bien, c'est l'épisodique qui est venu. Et les élections se sont faites voilà, selon les circonstances, les candidatures. Et la meilleure preuve, c'est que lorsqu'on a supprimé la deuxième classe, on a réparti tous ses membres entre les autres classes sans aucun problème. Disons, vous allez dans la première, vous allez dans la troisième, dans la quatrième. Bon, personne ne s'est posé vraiment de problème. Alors... je pense qu'une réflexion un peu semblable pourrait être faite si on survole le demi-siècle qui s'est écoulé. En réalité, le nombre des sections et l'appellation des sections de l'Académie des sciences morales et politiques n'a pas l'importance fondamentale que pourrait laisser penser la construction même des origines, parce qu'ils se sont battus sur ce sujet, nos prédécesseurs, n'est-ce pas ? Et ils ont essayé de faire prévaloir une conception ou une autre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne se battra pas sur cette question. Et là encore, j'aurai une réaction un petit peu pragmatique, qui est de dire que les sections sont telles qu'elles existent. Bon, on peut prendre chacune et discuter, à la fois de son appellation, de son périmètre, mais elles sont là. Je n'ai pas évoqué le problème, je ne souhaitais pas l'évoquer. Mais il faut bien voir qu'avec ce sujet-là, il y en a un autre au moins aussi important, qui est celui des candidatures et des élections des membres au sein des sections. Car la présence des représentants de toutes les disciplines au sein de l'Académie est au moins aussi importante que le découpage des sections. Et c'est à quoi l'Académie des sciences s'applique avec une très grande précision, à s'assurer, évidemment, avec 250 membres, c'est plus facile qu'avec 50. Mais l'Académie des sciences s'applique avec grande précision à ce que les disciplines soient représentées, et si possible, je crois toujours, par au moins deux membres, de manière à ce qu'il n'y ait pas de... Eh bien, nous avons un petit travail intérieur, probablement, à faire, de manière à ce qu'il puisse en être à peu près de même au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis, alors, votre dernière question, quelle portée faut-il accorder à l'initiative de notre confrère Allègre ? N'est-ce pas ? Il était ministre de l'Instruction et de la Recherche dans un gouvernement où il a fait quelques éclats, on s'en souvient, l'un de ceux-là, c'était de proposer un jour qu'on crée une Académie des sciences humaines en dehors de l'Institut, à côté de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, évidemment, la démarche avait une portée politique évidente, et elle n'a eu aucun écho. L'importance qu'il faut accorder à cette démarche, je crois, en elle-même, en tant que telle, faible, et en souhaitant qu'elle ne se reproduise pas. Le peu de succès accordé à la première montre que... Mais... peut-être aussi voir que
cette démarche, si elle a eu lieu, c'est qu'elle pouvait répondre à une certaine préoccupation, c'est qu'au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, peut-être toutes les représentants, toutes les disciplines n'étaient peut-être pas suffisamment représentées, toutes les disciplines vivantes, toutes les disciplines peut-être en tant que nombre de professeurs, de chercheurs, d'étudiants, n'étaient pas représentées au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis, il y avait une autre démarche, c'est de créer une académie en dehors de l'Institut de France. Alors, je sais bien qu'on a créé l'Institut des technologies avec beaucoup de succès, à côté de l'Institut de France et avec des habitudes de coopération excellentes avec l'Académie des sciences. Alors, où situe-t-on la frontière? Elle a été dite bien des fois, je crois qu'il faut, la maintenir parce que ça repose sur un principe qui était tout à fait essentiel. L'Institut de France ne regroupe que des académies qui sont des académies conceptuelles et qui ne sont pas des académies professionnelles, qui ne sont pas des regroupements de professionnels, des gens qui exercent ensemble un métier. C'est pour cela que l'Académie de médecine n'a jamais fait partie de l'Institut. C'est pour ça que l'Académie d'architecture n'a pas fait partie de l'Institut. Même s'il y a des médecins à l'Académie des sciences et des médecins à l'Académie des sciences morales et politiques, bien naturellement, et même s'il y a des architectes et même une section d'architecture à l'Académie des beaux-arts. Mais ils ne sont pas en tant que professionnels. Ils sont en tant que créateurs. Et l'Académie des technologies, à cet égard, se justifie bien clairement, ne pose pas de problème conceptuel. Et c'est avec juste raison que l'Académie des sciences n'a pas fait d'opposition à la création, mais au contraire a établi de bonnes relations de travail avec l'Académie des technologies. Il n'en irait pas de même d'une Académie des sciences humaines en dehors de l'Institut. Et donc, cette simple distinction fondamentale fait que, il est normalement, il y a lieu de refuser la création d'une autre académie des sciences humaines ou des sciences de l'homme en dehors de l'Institut. Ça serait de créer le désordre sans vrai bénéfice. Simplement, nous devons être attentifs. Il faut que nous sommes ici pour le dire. Nous devons être attentifs à ce que l'ensemble des disciplines soient représentées au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, si vous le permettez, Monsieur le Président, j'ajouterais simplement un mot. C'est que la plupart, je remercie mes confrères des différentes questions qui nous ont posées, presque toutes trouve une réponse dans la démarche de Guizot. Et alors, je profite de la présence d'une partie des représentants de la famille de Guizot qui est ici jusqu'à présent, mais pour souligner le caractère fondateur de la démarche de Guizot. En réalité, c'est la bonne. Je me souviens de lorsque Jean Tullard a présidé l'Académie et qu'il avait donné comme thème « Peut-on faire confiance aux historiens ?» Il m'avait demandé d'évoquer le cas de Guizot. Alors, j'avais répondu « Quelle confiance peut-on faire aux historiens ?» Le cas de Guizot, j'avais répondu « Comme historien, grande confiance. Comme doctrinaire en politique, moyenne confiance. Et comme gouvernant, pas de confiance. » Alors, si vous me permettez, nous sommes entre nous, entre historiens, hommes de science et de réflexion. Et je crois que nous pouvons faire confiance à la démarche de Guizot. Il a bien établi l'Académie des sciences morales et politiques. Et il nous revient de la faire vivre comme il l'avait établi. Merci beaucoup.